La maladie d'Alzheimer est une maladie qui touche le cerveau. Elle entraîne un déclin progressif et irrémédiable des fonctions cognitives. Lorsqu'on est affecté, on perd progressivement certaines capacités, comme la mémoire, le langage, le raisonnement, l'exécution des gestes ou encore la reconnaissance des objets, des lieux ou des personnes.
Déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer. Un podcast proposé par la communauté mixte de recherche d'IMA pour informer sur la situation spécifique des personnes avec déficience intellectuelle confrontées à la maladie d'Alzheimer.
Les troubles liés à la maladie d'Alzheimer réduisent l'autonomie. Il est donc important de repérer la maladie le plus tôt possible. Établir un diagnostic de maladie d'Alzheimer est un processus toujours long et délicat, et il l'est plus encore quand il s'agit de personnes avec déficience intellectuelle. Pour ces dernières, le diagnostic arrive souvent tardivement, voire jamais.
Épisode 2. Les enjeux autour du diagnostic. Réalisation, Blandine Lacour et Maxime Huige.
Il y a deux grandes étapes qui mènent au diagnostic. Tout d'abord, le repérage des troubles. Ensuite, la consultation médicale et les examens de santé qui permettront de confirmer ou non la présence d'une maladie d'Alzheimer. Le docteur Stéphane Carnin, chef de pôle gériatrie et médecine au Centre départemental de repos et de soins de Colmar, étudie depuis bientôt 30 ans l'articulation du handicap mental et des maladies liées au vieillissement. Il est un fin connaisseur de la problématique. Et c'est avec lui que nous allons essayer de comprendre le processus qui aboutit au diagnostic de maladie d'Alzheimer. Tout d'abord donc, le repérage des troubles.
Alors le repérage, c'est évidemment la première étape, et c'est de lister et de repérer l'ensemble des signes qui font que les personnes changent. C'est d'abord l'altération du rythme de vie, et il va apparaître aussi un certain nombre de signes, de désorientation dans le temps, dans l'espace, d'erreurs qui vont donc marquer le début de ce vieillissement cérébral, notamment pathologique. Et alors, la grande difficulté, c'est de se dire, bon, elle vieillit, il vieillit, et donc l'ensemble des modifications sont ramenées au vieillissement, alors que ces modifications sont liées au vieillissement cérébral. C'est le défi d'une nouvelle médecine, c'est le défi d'une nouvelle gériatrie, que d'aller voir pourquoi les gens marchent moins bien, mais ce n'est pas très différent de la population ordinaire. C'est de voir pourquoi il y a des chutes qui s'installent et de ne pas incriminer les gravillons, les godasses ou la pente du trottoir, et donc d'essayer de repérer tous les éléments qui changent dans le comportement, toutes les renonciations, toutes les nouvelles habitudes qui sont plus lentes et plus confortables, et d'essayer de voir comment on peut essayer de comprendre ces différentes modifications.
Repérer ce qui relève de la maladie d'Alzheimer et ce qui est de l'ordre d'un vieillissement entre guillemets normal est compliqué. Seules des personnes très proches qui sont au quotidien avec les personnes déficientes intellectuelles sont capables de repérer ces changements de comportement. C'est la famille, évidemment, les professionnels du handicap, mais aussi d'autres professionnels, par exemple un chauffeur de bus qui voit la personne tous les jours. Cela peut être aussi des professionnels de santé qui vont noter une incontinence ou une chute qui s'installe. Dans tous les cas, il est important que cet entourage soit sensibilisé.
Encore faut-il que cet entourage soit correctement formé et invité à ne pas jeter un regard fataliste, c'est l'âge, sur ces modifications qui se font de plus en plus évidentes.
Et oui, c'est là le piège, minimiser les changements ou les penser comme étant normaux. Le repérage des troubles n'est pas évident, car il faut prendre en compte non pas une situation à un instant T, mais des changements de comportement qui s'opèrent dans la durée. Pour vous aider, il existe des outils, comme des grilles d'évaluation. Vous pouvez aussi simplement noter sur un carnet d'observation tous les changements qui surviennent et les dates auxquelles ils surviennent. Ces observations fourniront un ensemble de données qui serviront de base lors de la consultation médicale. Cela pourra permettre de repérer des difficultés qui s'installent de façon progressive. Ce seront des indications précieuses pour les professionnels de santé. Cela sera d'autant plus utile si le professionnel ne connaît pas la personne qui consulte ou n'est pas formé à la prise en compte du handicap mental. Venons-en à la deuxième étape du processus, la consultation médicale et les examens complémentaires.
D'abord, on essaie de s'entretenir à la personne pour voir un peu son rythme de vie, son niveau d'autonomie par rapport au repas, par rapport à la cuisine, par rapport au déplacement, par rapport à la gestion des questions administratives. Et on essaye de voir un peu dans le repérage ce qui a été indiqué et ce qui est moins bien fait qu'avant. Après, on a évidemment un examen somatique qui est conduit et qui doit être très, 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 très complet et qui, au vu du handicap, peut quand même durer un certain temps. Et in fine, quand on a repéré qu'il y a vraiment des choses qui ont été modifiées et qui vont moins bien qu'avant, on passe par l'imagerie.
L'imagerie, c'est l'imagerie à résonance magnétique, IRM. C'est un examen qui va servir à confirmer la présence d'une maladie d'Alzheimer. Il y a donc d'abord un entretien avec la personne et ses accompagnants, ensuite des tests d'évaluation des fonctions cognitives et un bilan somatique, c'est-à-dire un bilan de santé complet, qui peut permettre de déceler ou d'écarter d'autres problématiques. Si les étapes du processus qui mènent au diagnostic de maladie d'Alzheimer sont les mêmes pour la population générale que pour les personnes avec déficience intellectuelle, pour ces dernières, c'est parfois un peu plus long et un peu plus complexe, notamment car certains des outils qui existent pour aider les professionnels de santé n'ont pas été pensés à destination des personnes avec déficience intellectuelle.
Les outils standards sont difficiles à utiliser parce qu'ils mettent en cause une culture, notamment quand vous demandez le nom du président de la République, si quelqu'un n'a jamais su ce que c'est que le président de la République, il faut qu'on mesure les pertes, il ne faut pas qu'on mesure le niveau de handicap qui existe déjà auparavant. Donc, dans ces grilles, qui ne sont pas très nombreuses, mais qui existent, on peut essayer de quantifier l'importance de la perte des personnes.
Les grilles sont donc des outils intéressants, pour peu qu'ils soient adaptés et maniés avec finesse par des professionnels de santé formés au handicap. Ces professionnels doivent aussi adapter leurs pratiques. Accompagner des personnes avec déficience intellectuelle demande plus de temps lors des consultations. Peut-être qu'il va aussi falloir prendre le temps de montrer les instruments ou se servir d'images pour expliquer les examens qui vont suivre. La plupart des professionnels de santé qui travaillent sur les maladies neuro-évolutives ne sont pas formés au handicap et vont avoir du mal à appréhender le niveau de perte de capacité des personnes en situation de handicap. Certains professionnels ignorent encore que la maladie d'Alzheimer se développe de façon précoce pour les personnes avec trisomie 21. Il arrive que des gériatres soient réticents à prendre en consultation des personnes avec déficience intellectuelle jugées trop jeunes au regard de leur public habituel. Dommage, car il est important de poser un diagnostic le plus tôt possible.
Mais il y a quand même beaucoup d'intérêt à poser précocement un diagnostic parce qu'on sait aussi que dans certaines formes de démence apparentée à l'Alzheimer, les neuroleptiques sont contre-indiqués. Il ne faut pas non plus traiter de dément toutes les personnes handicapées, notamment psychiques ou mentales, qui perdent certaines de leurs activités ou de leurs compétences. Donc il faut quand même essayer de savoir de quoi on parle pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé. Donc il faut essayer rapidement quelque chose qui ressemble à un diagnostic pour qu'on puisse accompagner ces personnes. Le deuxième élément fondamental, c'est aussi pour qu'on puisse rassurer ou pas, ou prévenir l'information chez les personnes, notamment les parents, la fratrie et l'ensemble des personnes qui font partie de l'entourage, et notamment les aidants professionnels. Quand quelqu'un fait pipi par terre, il faut peut-être aussi leur expliquer que ce n'est pas une volonté de mal faire ou d'embêter le monde, mais que ça peut faire partie d'une dégénérescence cérébrale, que ça peut faire partie d'une dégénérescence neurologique périphérique et que, comme dans la population ordinaire, l'incontinence, ça fait partie d'un symptôme et non pas d'une volonté de nuire.
Il y a urgence à sensibiliser les professionnels du handicap et de la santé, car la population de personnes en situation de handicap âgées est en forte croissance. Encore trop de médecins sont ignorants de cette problématique. Certains pensent qu'il est inutile de rechercher la maladie d'Alzheimer au prétexte qu'il n'y a pas de traitement ou que la personne avec un handicap serait déjà prise en charge et donc que ça ne changerait rien. C'est faux. Si la maladie d'Alzheimer n'est pas spécifique pour les personnes avec une déficience intellectuelle, l'accompagnement, lui, l'est. Et cela peut avoir un impact sur l'évolution de la maladie, le bien-être de la personne et celui des proches et des professionnels. Et bien sûr, il faut aussi apprendre à communiquer autour de la maladie. La communication est fondamentale, que ce soit auprès de la personne concernée ou auprès des proches.
La personne elle-même, nous, c'est notre obsession. C'est toujours d'abord la personne, ensuite l'entourage. Notre éthique, c'est de toujours essayer de donner les explications à la personne. Elle capte certaines choses, elle ne capte pas tout, mais l'essentiel, c'est qu'on puisse lui rendre compte de l'évolution de ce qu'on a trouvé dans notre examen clinique et paraclinique. La dignité est à ce prix-là.
Dans le prochain épisode de ce podcast, nous parlerons de l'accompagnement et du respect des choix de vie. D'ici là, pour en savoir plus, rendez-vous sur social-project.fr/DIMA.
Déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer. Un podcast proposé par la communauté mixte de recherche DIMA. Réalisation, Blandine Lacour et Maxime Huyge.